Bonjour à tous et merci de vous joindre à Radio Capi qui vous propose parole aux auditeurs. Les députés nationaux ont tenu lundi 30 septembre dernier une plénière dans la salle des congrès du Palais du Peuple et c'est après l'ouverture de la session ordinaire intervenue le 16 du même mois. Bien qu'essentiellement budgétaire, les députés estiment que si la situation du pays nécessite d'autres matières prioritaires. Même son décloche au Sénat où les élus ont planché également sur d'autres matières à inscrire à l'ordre du jour compte tenu de l'ordre de leur importance. Quelles seraient pour vous d'autres matières prioritaires à traiter au cours de cette session parlementaire? Nous en parlons tout à l'heure avec le professeur Chibang Kalala, professeur d'université et député national honoraire. Nadine Foula, Paul Badanyama réalise cette émission que vous présente Pierrot et la Meiji sous la supervision de Nicole Ngakia. 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meiji.
La session parlementaire du mois de septembre en RDC s'est ouverte, c'était le 16 du même mois, du mois de septembre, mais les travaux ont été suspendus compte tenu du forum qui se tient dans les installations de le Palais du Peuple, à savoir les concertations nationales. Mais le lundi dernier, que ce soit à l'Assemblée nationale tout comme au Sénat, une plénière pour adopter l'ordre du jour a été tenue et les élus ont estimé, quoi, au-delà du budget qui constitue l'essentiel des matières à traiter pendant la saison de septembre, il serait aussi mieux d'inscrire d'autres matières à l'ordre du jour, telles que le projet des lois portant amnistie pour l'Assemblée nationale, mais il y a aussi la proposition des lois portant les modalités d'application des droits des femmes. Les autres ont pensé qu'il faut aussi examiner en ce qui concerne l'Assemblée nationale. On a pensé qu'il faut aussi examiner la proposition des lois modifiant et complétant la loi organisant les élections présidentielles, législatives, provinciales et urbaines, municipales et locales. Au nombre d'arriérés législatifs figure également les projets de loi portant programmation des modalités d'installation des nouvelles provinces et celles portant fixation des limites des provinces et de la ville de Kinshasa. Et sans oublier aussi la proposition de loi relative à la liberté des manifestations publiques au niveau du Sénat, aussi d'autres matières au-delà du budget. Pourquoi pas examiner la révision du code de la famille et code de sécurité sociale, les statuts des chefs coutumiers, les projets de loi portant programmation sur la mise en œuvre de la réforme de la police. Voilà autant de matières. Mais vu la situation, vous pouvez aussi avoir des propositions, des matières que vous pensez être prioritaires, qui peuvent être examinées au niveau, que ce soit de l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau du Sénat. Vos propositions sont les bienvenues. 081-890-6315. Nous avons déjà trois auditeurs en ligne. Maître Adrien qui est à Kalanga, dans la province du Kassai occidental. Bonjour maître.
Oui, bonjour, c'est la Belgique.
Et pour vous, au-delà du fait que la session du mois de septembre, on sait qu'elle est essentiellement budgétaire, quelles sont pour vous les priorités qui peuvent être aussi examinées par les députés nationaux, tout comme les sénateurs?
Oui, Pierrot, je pense que deux priorités, à mon humble avis, vous venez de les citer. Je pense qu'il faut voir vraiment le projet de loi fixant les limites des progrès, parce qu'il y a vraiment à boire et à manger de ce côté-là. On ne sait pas les limites vraiment exactes de nos provinces. Et très souvent, ça crée des tensions, des problèmes entre les provinces voisines. Je vois ici notre province, donc le Grand Kassai, la province Kassai occidentale, et la province du Kassai oriental du côté d'Imbelengue et puis Kabeya Kamwanga. Je pense que si on s'est appelé par rapport à ces projets-là, ce sera vraiment l'une des solutions pour calmer un peu les esprits. Ça ira parce que chacun est en train de tirer vraiment les draps de son côté et je pense que la loi pourra quand même nous donner de la matière. Et puis, deuxièmement, Pierrot, c'est du côté Sénat par rapport au projet modifiant le code de la famille. Je pense que c'est très, 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 très important à mon humble avis parce que en tant qu'avocat, nous nous retrouvons devant un dilemme, donc que nous ne comprenons pas et on ne sait pas vraiment à quel sens le vouer. Je vous donne un exemple, donc rapidement. Le code de la famille, à son article 379, reconnaît le mariage coutumier et selon cet article-là, le mariage coutumier produit les mêmes effets que le mariage célébré devant l'officier de l'état civil, c'est-à-dire ces effets sont valables même si ce mariage-là n'est pas enregistré donc devant l'officier de l'état civil. Là, c'est le 1. Maintenant, lorsque vous lisez la loi modifiant le code pénal de 2009, et cette loi-là, là, en son article vraiment 1944, la loi ne reconnaît pas donc le mariage coutumier et pour cet article-là, l'unique mariage valide et puis valable, c'est le mariage célébré devant l'officier de l'état civil. Et lorsque un avocat a un problème à défendre donc l'une des parties, l'avocat ne sait pas vraiment donc s'appeler à quel article. C'est pour cela que j'aimerais qu'on puisse vraiment modifier les codes de la famille. C'est vrai que on les souhaitait toujours parce que ce code-là nécessite vraiment une modification pour qu'il soit actualisé avec nos réalités actuelles et qu'on puisse un peu tirer un peu les choses au clair au lieu de laisser un peu les juristes devant une situation un peu compliquée comme celle que je venais d'évoquer tout à l'heure. Voilà, Pierrot, à mon humble avis, ce sont là les deux priorités, à mon humble avis, qui nécessitent vraiment une attention particulière.
Merci beaucoup, Adrien, de nous avoir appelé des Kananga. Vous pensez, vous, qu'au-delà du fait que la session soit consacrée au budget, vous pensez pour vous qu'il y a deux matières prioritaires, et c'est d'abord la limite des provinces, hein, compte tenu des conflits qu'on enregistre au Kassai occidental et Kassai oriental, entre le territoire de Djimbélé, le territoire de Djibaya aussi, avec les territoires des Kabaïkamanga. Vous estimez qu'on ait cette loi rapidement, ça peut résoudre le problème de ces conflits fonciers entre les deux provinces, mais au-delà, en tant qu'avocat, vous dites aussi si on pouvait profiter de cette session pour résoudre le problème, revoir les codes de la famille, cela peut résoudre le problème que vous croisez chaque fois quand vous êtes au tribunal en ce qui concerne le mariage coutumier, le mariage célébré devant l'officier de l'état civil, et vous souhaitez qu'on puisse avoir ces codes de la famille révisés pendant cette session au-delà du fait que c'était une session budgétaire. Merci beaucoup, Maître Adrien Franklin. Vous restez avec Arsène. Vous êtes Franklin à Bukavu, Arsène à Kikwit. Nous avons déjà reçu notre invité dans ce studio, professeur Chouankalala. Bonjour.
Bonjour, Anne. Pierrot.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Bien entendu. Je vous remercie. Voilà. Pour m'avoir invité.
Merci beaucoup. La première question que je voudrais bien vous poser, c'est celle de savoir, d'une manière générale, quand il y a une session parlementaire, quels sont les éléments qui peuvent déterminer qu'une matière soit considérée prioritaire, vous qui avez été au sein de l'Assemblée nationale, quels sont les éléments qui peuvent déterminer une matière, qu'on puisse dire que pour cette session, en tout cas cette matière, elle est prioritaire?
Oui, bon, comme je l'ai dit, d'abord je vous remercie pour m'avoir fait cette invitation. Mm-hmm. Mais comment ça se passe de manière pratique? Bon, comme vous l'avez bien souligné, j'étais parlementaire pendant 5 ans et j'ai siégé à la conférence des présidents de l'Assemblée nationale, c'est parce que c'est là où tout se discute. La conférence des présidents réunit le bureau de l'Assemblée nationale, les présidents des commissions permanentes, qui sont des commissions techniques, ainsi que les présidents des groupes parlementaires, qui sont des groupes politiques, bon, à peu près 28 ou 27 personnes. Et donc, au début de la session parlementaire, le bureau convoque d'abord une réunion de la conférence des présidents. Pour discuter du calendrier de la session. cette fois-ci, c'est la session de septembre, qui est essentiellement une session budgétaire.
Oui.
Et à ce moment-là, on va examiner les matières, on va voir bon, quels sont les arriérés. D'abord, on commence par là. Il y a peut-être des lois qui étaient déjà déposées et qu'on n'avait pas mis en plénière pour discuter, mis en plénière pour discussion, etc. On voit les arriérés, ce qu'on appelle les arriérés. Et puis, il y a le volet des nouvelles matières qui viennent au cours de la session. Et donc, on discute, on voit qu'est-ce qui est prioritaire. En réalité, c'est à l'issue du débat, au sein de la conférence des présidents, qu'on prend la décision de mettre en priorité certaines lois par rapport à d'autres, suivant les exigences. Et après, on amène tout cela à la plénière, parce que la plénière qui doit décider, qui doit adopter le calendrier de la session. Ce n'est pas la conférence des présidents. Alors, vous dites, mais c'est à l'issue du débat. Il n'y a pas de critères précis. C'est à l'issue du débat que le président de l'Assemblée, que tous ceux qui sont là, ils disent, oui, écoutez, chers collègues, voilà, il y a telle loi, elle est importante pour telle raison, il faut absolument qu'on puisse discuter de cette loi au cours de cette session, de manière à l'adopter, parce que ça doit encore aller au Sénat pour une deuxième lecture, ça va pour une fois, il faut absolument qu'on avance. Et donc, c'est à l'issue du débat qu'on peut dire, voilà, telle loi est prioritaire, telle autre n'est pas prioritaire, ça, il faut attendre, etc. Mais, en tout état de cause, quand on fait le calendrier de la session, on met tout. Parce que le calendrier n'est pas bloqué, n'est pas figé. Même une matière qui n'était pas prévue, on peut toujours ouvrir le calendrier pour l'intérêt. Il arrive parfois que le gouvernement, selon la Constitution, peut estimer qu'il y a une loi qu'il faut absolument adopter en urgence parce qu'elle est importante pour le fonctionnement de l'État. En ce moment-là, le gouvernement s'est réuni en Conseil des ministres et fait un tableau. Donc, une liste de 2, 3 ou 4 lois, par exemple, de projets de loi qui étaient déposés là-bas, et demande au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat, de mettre ces lois en priorité. Donc, ça, c'est la Constitution, en urgence. En ce moment-là, l'Assemblée nationale et le Sénat sont obligés de mettre de côté les autres matières qui étaient là, et de mettre à l'ordre du jour, là-bas, toutes les affaires cessantes, comme on dit, les projets de loi qui viennent du gouvernement, si le gouvernement demande, suivant la Constitution, en invoquant la Constitution, bien entendu, pour que ces projets de loi soient traités en toute priorité. Par exemple, il y a le projet de loi d'amnistie. Bon, on a parlé. Le président de la République, au cours de son discours sur l'ouverture
des consultations,
a fait allusion à cela. Bon, à ce moment-là, vous voyez que le président a demandé déjà, ça a signalé, et on peut comprendre que le gouvernement puisse déjà préparer un projet de loi d'amnistie. Et peut, pour permettre au Parlement d'aborder ça le plus vite possible, toutes les affaires cessantes, en mettant de côté les autres bases d'autres lois, le gouvernement peut envoyer déjà un projet de loi d'amnistie à l'Assemblée nationale, au Sénat, en disant que, conformément à la disposition de la Constitution, je vous demande de traiter cette matière en urgence absolue, en priorité, parce que le pays a besoin de ça. Donc, voilà.
Nous sommes en session de septembre, on appelle session budgétaire. Y a-t-il aussi cette ouverture-là, de dire, voilà, est-ce qu'on peut surseoir le débat sur le budget pour se consacrer à une autre matière, considérant qu'il est prioritaire par rapport à tous les travaux, nous savons qu'il est colossal quand on examine quand même le budget au niveau de que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat.
Oui, M. Pierrot, pour les auditeurs de Radio Tapi, il faut savoir que le budget, c'est une loi. On l'appelle loi de finances. Et donc, c'est une loi par laquelle l'autorité budgétaire, c'est-à-dire le Parlement, autorise le gouvernement de percevoir des recettes et d'exécuter les dépenses de l'État. C'est une loi, comme toutes les autres lois. Mais c'est très important parce que c'est une loi qui permet à l'État de fonctionner. Nous avons un problème aujourd'hui aux États-Unis, nous sommes dans l'actualité.
Effectivement. Avec le fonctionnaire qui sont en congé technique, parce qu'on n'a pas pu voter le budget.
Parce qu'on n'a pas pu voter le budget, il y a le shutdown, comme disait le blocage. Et donc, le budget de l'État est très important pour permettre le fonctionnement du pays et de l'État. Et donc, c'est une loi très importante. Il y a toute une session qu'on appelle session budgétaire, parce que c'est une loi importante. Sans cela, l'État ne peut pas fonctionner. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas aborder d'autres matières. Vous savez, le vote de la loi des finances, ça prend beaucoup de temps. Il y a des discussions, le projet vient du gouvernement, qui doit venir défendre. On envoie ce projet de loi à la commission spéciale qui est là, qu'on appelle ECOFIN, qui est là. On va discuter, on va entendre les ministres, on va entendre le service public, toutes les régies qui apportent l'argent au budget de l'État. Donc les gens vont défiler. Et donc ça prend du temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on règle au bout d'une semaine ou deux semaines. Nous sommes en septembre, peut-être qu'on va voter ça au mois de novembre. C'est novembre, début décembre, ou même plutôt, ça dépend. Et donc ça prend du temps. Mais en attendant, parce que le travail se fait dans une commission qui a à peu près 70 ou 80 députés, et donc les autres ne vont pas tourner les pouces. Il y a des matières qui vont aller dans d'autres commissions permanentes. Il y aura des plénières pour adopter et voter d'autres lois. Donc le fait qu'on appelle session budgétaire, cela ne veut pas dire, bon, on tourne le pouce, on ne fait rien, on est là uniquement pour le budget. Non, pas question. Donc on a pensé que c'est ça et ça va du soi.
Voilà. Merci beaucoup. On a suivi tout à l'heure, parce qu'il y a les auditeurs qui sont sur les antennes, vous pouvez réagir au premier auditeur, hein, c'est Adrien, maître Adrien Descananga. Pour lui, il a pensé qu'au-delà du fait qu'on examine bien sûr la loi budgétaire, mais c'est important aussi la loi financière. Il pense pour lui que vu le conflit qui est récurrent entre la province du Kassai occidental et Kassai oriental par rapport aux limites là entre les territoires, il pense pour lui que qu'on puisse examiner la loi qui fixe les limites des provinces, mais aussi la révision du code de la famille, parce qu'il le retrouve que dans la pratique en tant qu'avocat, il rencontre beaucoup de difficultés. Est-ce que dans l'examen de ces lois, on sait que sous d'autres cieux, les députés, ils peuvent consulter leur base pour demander si je peux accélérer, par exemple, la discussion autour de cette loi. Est-ce que dans la pratique chez nous, les élus recourent aussi à leur base pour dire, voilà, dans mon fief, il y a tel problème, si on peut examiner cela avec célérité au niveau de l'Assemblée nationale, tout comme au niveau du Sénat?
Oui, c'est vrai. J'ai assisté à ce type de discussion pendant 5 ans à la conférence de président. Ben, souvent, ce sont les présidents des commissions permanentes techniques, parce que les lois, toutes les lois, viennent des commissions permanentes. Et ces commissions permanentes sont représentées à la conférence de présidents par leur président, qui présente ces commissions. Et qui viennent et disent, voilà, monsieur le président, chers collègues, voilà, dans ma commission, nous travaillons sur telle loi, telle loi, telle loi. Ces lois sont importantes. Je souhaite vraiment que ces lois figurent au calendrier de cette session et qu'on en débatte, qu'on en voit en plénière. Donc on est tout. Et donc, mais la décision, le dernier mot, appartient au bureau. C'est le bureau qui programme les travaux en plénière. Tu peux dire, bon, à la séance plénière de l'Assemblée nationale ou du Sénat de tel jour, eh bien, moi, bureau, je mets à l'ordre du jour tel projet, tel projet, tel projet. Mais les parlementaires sont sous pression. On les contacte, en particulier les ONG. Je vois comment les femmes nous ont signé les cotes à l'époque, avec la loi sur la parité, il faut faire ceci, la loi sur la violence sexuelle. Et donc, il y a des groupes de pression, et c'est tout à fait normal. Dans une démocratie, les journalistes, vous pouvez venir pour dire, bon, écoutez, mais la loi sur la presse, bon, ça traîne, il faut faire quelque chose pour faire des pressions. Vous pouvez demander des audiences auprès du président de l'Assemblée nationale pour dire, écoutez, mais cette loi traîne, monsieur le président, il faut programmer. C'est tout à fait normal, et c'est une pression démocratique normale. Donc, la population, la base, etc. Le cas de confrère Adrien de Kananga, que je salue, bon, je ne connais pas, c'est un confrère avocat qui porte à l'attention de la population et des parlementaires en disant, vous savez, il y a un problème à la province, entre les deux provinces, à la frontière, qui est une frontière administrative, bien entendu, et qu'il faut qu'on règle ce problème. Et ça, c'est très important, il faut qu'il y ait des voix qui s'élèvent, comme Adrien le fait, pour attirer l'attention des législateurs, pour dire, attention, il y a tel problème, il faut aller vite. C'est comme ça qu'il va se faire.
Merci. Nous avons Franklin à Bukavu, Arsène Akikwit et Patien à Kananga. Franklin, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi, bonjour à notre invité, le professeur Kanala.
Merci beaucoup, merci. Oui. On vous écoute, quelles seraient pour vous les matières prioritaires?
Oui Pierrot, la question, je vois que la question est vraiment complexe et je ne sais pas par où commencer, par où terminer, parce que au Congo tout semble être priorité, tout semble être priorité, je dirais. Mais je vais ramasser quelques points. D'abord, je veux commencer, c'est la question budgétaire. Nos honorables députés doivent avant tout demander la révision des comptes. Parce que nous voyons des députés qui ont voté sans que la révision des comptes ne soit faite. Et donc, c'est par là qu'on doit commencer avant de voter un nouveau budget. Les honorables députés doivent cette fois-ci demander la révision des comptes. Maintenant, j'entre dans le vif du sujet. Je pense que dans toute démocratie, les députés ont traditionnellement deux missions, celui de légiférer et celui de contrôler. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons en RDC? Le contrôle parlementaire, M. Pierrot, est resté un enfant pauvre. On ne contrôle pas, les députés ne contrôlent pas rigoureusement le gouvernement. Et c'est pourquoi il y a toutes ces déviations dans l'application des règles. Et donc, on peut voter des lois, c'est bien, il faut avoir un cadre juridique. Mais l'application de ces lois pose aussi problème. Il faut que les députés arrivent à contrôler si les décisions, si les recommandations qu'ils donnent au gouvernement sont véritablement appliquées. Et si elles ne sont pas appliquées, qu'ils arrivent à prendre les dispositions nécessaires. Deuxième proposition que je veux faire, c'est en fait la poursuite des élections. On ne peut pas parler de la démocratie seulement lorsqu'on a fait les élections présidentielles et législatives. Alors que nous savons qu'il y a le Sénat qui, d'une manière ou d'une autre, quelque chose qu'on peut dire, fonctionne d'une manière illégitime. Il y a les institutions provinciales, il y a les institutions de la base qui continuent à fonctionner avec des animateurs qui sont nommés. Là, il faut en fait pour que les élections aient lieu, les élections, le reste du processus des élections se termine. Enfin, je voudrais terminer à interpeller les députés. Vous voyez les députés qui sont arrêtés par-ci par-là. C'est comme si les immunités parlementaires ne disent plus rien. Il faut que les députés arrivent aussi à interpeller le bilan pour savoir comment est-ce que ça fonctionne avec leurs immunités. Et enfin, je voudrais dire qu'il faut que les députés se penchent aussi sur les concertations nationales. Il y a trop de controverses. Et là-dessus, on parle, on dit, mais les députés doivent, à travers eux, la population, les électeurs, doivent être informés suffisamment pour savoir ce qui se passe et ce qui s'est passé au niveau des concertations nationales. Et je termine en me posant une question parce que le professeur a dit qu'il y a au niveau des conférences des présidents, il y a des discussions qui se font sur base des rapports de chaque député. Mais moi, je dis aussi ce qu'il faut. Nous avons à peine trentaine de députés, mais je ne les vois pas. Ils ne viennent pas à vacances parlementaires. Quel est le rapport qu'ils donnent? Où est-ce qu'ils tirent ces rapports-là?
Merci, je sais qu'il y a vraiment beaucoup de matière, simplement. Vous avez raison de dire que tout est prioritaire pour vous. Vous ne savez pas par où commencer, par où terminer, c'est vrai. Mais nous allons essayer de résumer. Vous avez dit, vous souhaiteriez d'abord qu'on puisse avoir la reddition des comptes. Je crois même dans les matières qui sont prévues, j'ai vu, on a parlé que les députés ont été informés du dépôt du projet de loi pour la reddition des comptes. Cela va permettre à ce qu'on puisse examiner le prochain budget. Et vous souhaitez aussi qu'au-delà du fait que c'est une session parlementaire, que vous puissiez sentir vraiment vos élus accomplir leur mission de contrôle parlementaire. Et pourquoi pas poursuivre les qui posent des questions sur la poursuite des élections. Mais il y a aussi ces débats sur les immunités parlementaires. Je crois bien notre invité pourra placer un mot là-dessus. Mais pourquoi pas aussi que les élus puissent expliquer et clarifier auprès de leurs électeurs la situation des concertations nationales et votre inquiétude par rapport aux vacances parlementaires. Voilà, j'essaie de regrouper. Mais vous avez raison de dire que tout est prioritaire pour vous. Merci beaucoup, Pantin. Arsène, vous êtes à Kikuit, dans la province de Bandundu. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Pierrot.
Et vous avez suivi notre ami qui pense que tout est prioritaire pour vous. Quelles sont les matières qui peuvent être considérées prioritaires dans cette session parlementaire?
Bon, pour moi, en soi, je crois que on ne peut pas cueillir de mangue là où on a planté des avocats. Je crois que ce travail de député et la définition même du Parlement a été à plusieurs reprises répétée. Moi, je vais dire ceci. Au début de cette législature, nous avons décrié la façon avec laquelle on a utilisé la CENI pour obtenir ce Parlement. Donc, on ne pouvait pas attendre grand-chose. Pas vraiment un bon travail, un beau travail de cette législature. Mais ce qu'on pouvait faire, c'était de remettre de l'ordre dans l'appareil de notre législature. Comment remettre de l'ordre? Remettre de l'ordre, ça veut dire respecter d'abord les fondements même d'un Parlement. Parce que si on a un Parlement qui est figuratif, un Parlement ici, du vol, de la triche, de la corruption, de tous ces méfaits-là de la société, on ne peut pas avoir un bon résultat. On va maintenant, aujourd'hui, 3 ans après ou 2 ans après, chercher à connaître qu'est-ce qu'on va faire. C'est grave.
aujourd'hui.
Oui, s'il vous plaît, Arsène, je crois bien que peut-être que je pourrais vous permettre de comprendre. Vous savez, nous avons eu, vous et nous, une émission sur l'évaluation du Parlement. Une année, deux ans après, nous avons dit comment évaluez-vous le travail des députés. Nous avons porté la critique sur ce travail. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a une session qui s'est ouverte, comme on le fait au début d'une session, on sait qu'il y a des problèmes. On ne va pas revenir sur le débat, sur le fonctionnement aujourd'hui. Mais nous regardons, à côté du fait qu'on examine les budgets, pour vous, quelles sont les autres matières qui doivent être examinées. Cela ne veut pas dire que les députés ont dit qu'ils n'ont pas de matières. Mais non, c'est vous, les électeurs, que vous proposez aujourd'hui à la session pour dire, voilà, à côté de ce que vous examinez, ce que vous avez dans votre programme, voilà ce que nous pensons en tant qu'électeurs qui est prioritaire, que vous pouvez examiner. Voilà comment nous orientons le débat d'aujourd'hui par rapport au bilan du travail. Nous l'avions fait avec vous l'année passée, si vous pouvez bien vous rappeler.
Merci beaucoup, M. Biro. Je crois que seul Arsène ne saura pas dire quelles sont les matières à revoir. Il y a eu la concertation que nous avons appelée de tous nos voeux. Il y a fait un travail. Bien que le travail est en quelque sorte un peu à huis clos, il y a un résultat que nous attendons de là. Mm-hmm. Et ce résultat-là, il sera orienté vers le président, je crois, qui est en train de travailler. Il aura de la matière. S'il y a une matière qui manque, à ce moment-là, on dira d'écouter, voilà telle matière qui manque dans l'ordre du jour du Parlement, nous allons ajouter telle matière. Mais moi, je voulais en plus marteler sur les deux objectifs que vous avez fixés, que vous avez déjà parlé. Il y a le découpage du territoire avec les nouvelles provinces, la décentralisation. Ce n'est pas un vrai mot qu'on doit commencer à prononcer comme ça, mais c'est un travail qui doit aller vers la population, que la population comprenne ce que ça veut dire. Mm-hmm. Quel est ce travail-là du découpage territorial, nos provinces, les entités décentralisées, c'est quoi? Il faut que ça soit vulgarisé dans toutes nos langues.
Merci.
C'est très important. Et en plus, on va voir le budget, que ça ne soit pas un budget pour... en quelque sorte, distraire la population avec des propagandes de je ne sais quoi ou de révolution. Révolution de la modernité. Ça doit être d'abord un état moral et mental avant de devenir
merci.
Un état
merci où beaucoup, Arsène. Voilà. Merci beaucoup, Arsène. Au-delà du fait qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le fonctionnement, on comprend votre souci, mais nous retenons, vous souhaitez qu'au niveau, à partir de cette session, vous puissiez être informé de résultats des concertations nationales. Vous avez rejoint notre ami Franklin de Bukavu, vous qui pense qu'au niveau de deux chambres, de ces sessions, soient nées aussi des explications sur les travaux des concertations nationales. Et vous avez même souhaité qu'il y a des matières qui peuvent provenir des concertations qui soient inscrites à l'ordre du jour au niveau du Parlement. On peut bien les faire. Et vous souhaiterez qu'on puisse aussi regarder, comme l'a souhaité notre ami Adrien, les problèmes de découpage des nouvelles provinces, la décentralisation, que tout cela soit examiné et bien expliqué à la population. Merci beaucoup, Arsène. Passons, vous êtes à Kananga, au Kassai Occidental. Bonjour.
Bonjour, Pierre.
Et nous dégageons ensemble les priorités pour vous à Kananga aujourd'hui. Si vous vous êtes demandé de formuler la priorité pour vos élus de Kananga qui sont ici à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'ils doivent examiner à côté du budget pendant cette période?
Merci beaucoup pour la parole. Vous avez entendu comment est-ce que aujourd'hui sur le plateau les auditeurs sont à chaud, hein, même si vous devez parler, vous allez même parler pendant 24 heures. Mais pour moi, les priorités s'envolent de manières. Il y a d'abord du côté parlement, tout comme du côté sénat. Alors du côté parlement, je voulais d'abord assez qu'ils puissent débattre, savoir pourquoi il y a toujours des guerres au Congo concernant les enseignants, les médecins, tout comme les infirmiers. Deuxièmement, pourquoi les gens n'ont pas confiance au gouvernement actuel et comment faire aujourd'hui pour éviter la confiscation du pouvoir légitime au Congo. Ça, c'est concernant le Parlement. Et concernant le Sénat, je voulais savoir, dire aux sénateurs comment faire les concertations, ou soit les dialogues entre les trois têtes politiques, à savoir, il y a le président Kabila, tout comme le président Kamere, pour terminer avec le président Tshisekedi. Et qui peut aussi se débattre, comment faire pour libérer Jean-Pierre Mpemba à la haine. Merci beaucoup, Pierrot. En quelque sorte, de manière, je voulais aussi participer aujourd'hui.
Merci, Patient. Je retiens, d'abord, vous souhaitez au niveau de l'Assemblée nationale qu'on se penche sur la situation sociale des fonctionnaires, que ce soit les enseignants, que ce soit le médecin, que ce soit les infirmiers qui sont allés en grève il n'y a pas longtemps, que les parlements, après l'Assemblée nationale, se penche là-dessus. Mais je crois que cela aussi peut être corrigé à travers le budget national, si le budget peut permettre de résoudre le problème des médecins, des enseignants, à travers l'amélioration des conditions de travail. Mais vous souhaiterez aussi qu'au niveau du Sénat, que les sénateurs voient comment on peut avoir une brèche des discussions, de rencontres entre le président Joseph Kabila, le président Tshisekedi, Vital Kamerhe. Vous souhaitez que le Sénat puisse initier quelque chose dans ce sens, mais pourquoi pas aussi les cas du sénateur Jean-Pierre Bemba plutôt, qui est à la Cour pénale internationale. Vous pensez que ces matières peuvent être aussi examinées au niveau de l'Assemblée nationale, tout comme au niveau du Sénat. Merci beaucoup, Patient. Vous êtes à Kamanga. Rachel, vous êtes à Isiro, en province orientale. Bonjour.
Salut, bonjour.
Donc, on vous écoute. Quelles sont pour vous les priorités pour cette session de septembre?
Oui, premièrement, je souhaiterais savoir que, comme le Parlement vient encore de l'ouvrir, sera mieux de s'engager d'abord sur la paix et sur l'est du pays. Donc, je vais faire tout pour avoir vraiment une paix solide à l'est du pays. Parce que c'est pas bien tout le temps, il y a des morts, il y a des flairs à l'est, et vraiment. C'est pas du tout bien. Et en parlant de budget, je voudrais dire, pourquoi pas ne pas chercher à créer donc un budget pour les enseignants? À faire un budget pour les enseignants, pourquoi pas? Parce qu'il y a des enseignants de mode qui sont plus âgés, donc ils sont capables de donner cours, mais ils ne s'aident toujours pas qu'ils suivent, ils abandonnent, ils n'auront rien d'autre à faire. Pourquoi pas faire un budget pour comme ça, on peut commencer à retraiter les enseignants plus âgés qui leur donnent du mal à donner cours à chaque fois, à moins qu'ils se sentent que ce sont des gens incapables de donner. Et autre chose, je voudrais dire, pourquoi souvent quand il y a des vacances parlementaires, les députés ne veulent pas aller donc, voir là où ils étaient votés. Rentrer dans les provinces et pour vérifier ce qui se passe, qu'est-ce qui ne marche pas, tout ça, qui est resté planté, qui est ça. Ou s'il y a des vacances parlementaires, chercher à aller à l'heure des étrangers, se promener, tout ça, non. Il est mieux de rentrer dans les provinces, vérifier qu'est-ce qui ne marche pas. Parce que si la population vous a voté, c'est parce qu'ils avaient foi à vous. Donc, à vous voter, c'est vous qui vont aller représenter et exposer leurs problèmes au niveau du gouvernement. C'est pas seulement de rester là-bas sans pourtant de faire savoir qu'on parle de je dirais ce qui s'est passé ici. Nous avons des super méga problèmes sur la route. Il n'y a pas de route, nous sommes tous bloqués. Donc, il n'y a pas moyen que les gens puissent se débrouiller tout ça. Et si nos députés aussi ne venaient pas voir ce qui s'est passé ici, qui va exposer le problème à la personne? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a donc la force et les moyens. C'est un effet là pour parler. Mais si on les a votés, c'est parce que ça qui est
évident. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Rachel. Vous pensez pour vous la priorité, c'est qu'au niveau du Parlement, qu'on examine la situation sécuritaire à l'est du pays pour le retour de la paix, mais pourquoi pas aussi avoir dans le budget de l'État une prévision qui permette de la mise à la retraite des enseignants. Vous estimez qu'ils enseignent trop vieux, il y en a nombreux qui sont déjà fatigués. Si au niveau du budget, on peut penser à ça, et pourquoi votre inquiétude aussi, c'est par rapport à l'absence des députés à Ordisiro pendant la période des vacances parlementaires. Nous allons terminer avec Jean qui est ici à Kinshasa et donner la parole à notre invité. Jean, bonjour.
Bonjour Thierry, bonjour Farouk, c'est salut aussi l'invité.
Et que pour vous, quelles sont les matières prioritaires qui peuvent être examinées pendant cette session?
Ok, merci Thierry de m'avoir accordé la parole. La priorité pour moi serait de présenter une solution fiable au problème de l'insécurité permanente à l'est de notre pays.
Mm-hmm.
Parce que nous pensions que avec les concertations, on pourrait trouver idée de cause, mais avant les choses telles que ça marche, il n'y a rien à attendre de là. Deuxième problème, résoudre le problème de Kuluna à Kinshasa. Pire, je crois que vous suivez comme moi l'actualité. Chaque jour, on nous montre la télévision qui, à tel point, on a tué, qui, on a violé, qui, on a blessé, ainsi de suite. Et ça, on trouve ça que c'est normal. C'est comme chaque jour, on doit suivre les journaux, la télévision, vous pouvez penser tout ça. Et puis, on trouve ça normal. Le problème des couleurs, aussi, c'est déjà normal. Voilà, on a géré là-bas, on a tué, on a cambriolé une maison, ainsi de suite. On minimise. Pourtant, c'est un problème qui est vraiment très sérieux, que le gouvernement doit prendre ça à cœur. Et, alors, au niveau du Parlement, il faudrait que nos députés, malheureusement, pendant les vacances ici,
Non, moi j'ai dit, j'ai limité personne, je n'ai vu aucun député descendre pour voir, à cause des vacances parlementaires, voir où est prendre les désidératés de la population. Je n'ai vu personne. Alors que chaque jour, il y a des morts qu'on a vus ici à Kinshasa, sans compter ce qu'on a toujours minimisé aussi de l'est de notre pays. Après, je me dis, je voulais qu'on fasse quand même quelque chose pour l'enseignement, parce que je l'ai retenu. L'enseignement est en train de mourir en petit feu. Pourquoi? Parce que le niveau de l'enseignement baisse. Vous avez des enseignants qui ont déjà travaillé pendant 4, 5, 6 ans, voire 8 ans, ils sont des NP, ils ne sont jamais payés. Mais comment celui-là va travailler avec plus de conscience? 5, 6 ans, 8 ans, sans être payé par l'État, en dehors de la maudite, disons, motivation des parents. Ça ne va pas. Il faudrait quand même un budget normal et résoudre le problème des enseignants, merci. Des élèves et puis des policiers et d'autres personnes qui sont dans le PG.
Merci beaucoup, Jean. Vous êtes ici à Kinshasa. Tout à l'heure, on va accorder la parole à notre invité. On a suivi beaucoup de propositions d'auditeurs, hein, comme l'a dit notre ami Franklin Deboukavou, qui a beaucoup de questions prioritaires pour lui. On sent que les gens ont beaucoup de questions qui sont vraiment des priorités pour eux, qui doivent être examinées, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale ou au niveau du Sénat. Merci beaucoup pour tous les compatriotes. Gauthier, gardez la ligne. Vous êtes à Kananga, au Kassa Occidental, 081-890-6315, c'est le numéro d'appel. Si vous avez besoin d'intervenir pour nous dire quelles sont pour vous les matières prioritaires qui peuvent être examinées pendant cette session de septembre, vous êtes les bienvenus.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Kapi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Kapi.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Professeur Soubankalala, en écoutant l'ensemble des auditeurs, vous avez noté ensemble avec moi, et comme l'a dit Franklin Deboukavou, il dit pour lui tout est prioritaire. On sent vraiment, le besoin est réel. Vous sentez à travers les interventions que les gens ont besoin de voir leurs préoccupations prises en compte au niveau de l'Assemblée nationale, comme au niveau du Sénat. Il y a eu beaucoup de propositions prioritaires, je crois que vous avez aussi noté, mais il se regroupe des conditions de vie de la population, des enseignants, des médecins, en passant par la situation sécuritaire, le problème de budget adapté aux besoins, par exemple, de la remise en retraite des enseignants. D'une manière globale, ça fait recoupe quelque part les interventions des auditeurs. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à tous ces soucis, tout ce qu'ils ont présenté comme besoins prioritaires?
Oui, c'est vrai. Je crois que M. Franklin de Bukavu a posé des problèmes sérieux. Lorsqu'il dit que tout est prioritaire dans notre pays, c'est vrai. Les priorités, c'est bousculer les unes à côté des autres. Mm-hmm. À un moment donné, on ne sait pas par où il faut commencer. Et il a raison. Mais j'ai retenu par exemple la question des vacances parlementaires. Rachel Distiro est revenue là-dessus.
Les gens de Kinshasa,
et lui-même Franklin a posé un problème. C'est vrai. Les gens doivent savoir que les parlementaires sont une courroie de transmission entre la population et le pouvoir central. Ils doivent prendre des informations, situations qui viennent de la base, pour communiquer au pouvoir central et prendre ce qui se passe au niveau central pour ramener à la base. Ils doivent jouer ce rôle. Mm-hmm. Dans le règlement de l'Assemblée nationale, les parlementaires ont l'obligation de rester au moins pendant un mois complet dans leur circonscription électorale, pour être en contact avec la population, recevoir leurs problèmes, les épisodes, etc. Et puis faire un rapport parlementaire à la fin, pour leurs vacances, pour expliquer, pour dire, voilà ce qui se passe. Et souvent, à l'Assemblée nationale, il y a toute une commission qui va intervenir pour faire la synthèse de tous ces rapports parlementaires qui viennent de toutes les circonscriptions, pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe, faire la synthèse, et voir comment on peut transmettre ça au niveau du gouvernement, de sauter pour s'organiser, ou parfois d'inviter les ministres pour venir s'expliquer. Mais je suis désolé de constater que les parlementaires actuels, d'après ce que Rachel nous dit,
ils vont à l'étranger,
ils ne le voient pas, ils vont à l'étranger, ils ne vont pas là-bas. Ça, c'est une faute politique.
Et donc, il faut que les parlementaires rentrent dans les circonscriptions électorales parce que la population a besoin d'eux et c'est très important. De deux, il y a eu la question qui a été posée de reddition des comptes. Mais ça, c'est une obligation. Je vois pour le calendrier,
oui, effectivement.
Pour le calendrier à l'ordre du jour de cette session parlementaire, il est prévu la reddition des comptes. Donc, avant de voter le budget pour le 2014, il faut le gouvernement venir dire comment il a exécuté le budget 2013.
Mm-hmm.
Ça, c'est une obligation, c'est prévu. Et donc, ça sera fait. C'est une obligation. Je me rappelle que souvent, c'est l'opposition qui tapait fort pour dire, écoutez, mais nous, on ne va pas examiner le budget actuel. Il faut d'abord que le gouvernement vienne nous dire qu'est-ce qui s'est passé avec le budget passé, comment il a exécuté, etc. Donc, ça se fait. Et cette frontière a dit, c'est pas valable, ça va se faire. Ils ont posé le problème des élections. Ça, c'est une question importante, M. Pierrot. Nous avons des institutions qui fonctionnent, qui sont à peu près comme des institutions bancales. Nous avons des assemblées provinciales qui sont hors mandat. Le Sénat est hors mandat, parce que 2 ans.
Le gouverneur de province.
Le gouverneur de province. Et il y a des assemblées, franchement, qui ça ne fonctionne pas. Et donc, il est très important qu'on organise au moins les élections provinciales l'année prochaine pour renouveler les pouvoirs provinciaux qui sont très importants. Mmh. On ne va pas développer ce pays, développer nos provinces, si nous n'avons pas des exécutifs provinciaux efficaces, si nous n'avons pas des législateurs provinciaux qui font correctement leur travail. Et donc, il faut renouveler les assemblées provinciales le plus vite possible, renouveler le Sénat le plus vite possible, parce que nous avons une situation grotesque, où nous avons une assemblée nationale fraîchement élue, qui travaille à côté
d'un
Sénat
au mandat,
et ils votent des lois ensemble, ça ne va pas. Il faut vraiment régulariser la situation. Et donc, Franklin pose bien le problème, il faut qu'on aurait ces élections le plus vite possible. Mais pour le faire, ce n'est pas l'Assemblée ou le Parlement qui organise les élections. Donc, c'est la CENI qui a ce pouvoir d'organiser les élections. Donc, nous attendons tous la fin des concertations nationales. Il y a eu des débats moi-même. Je suis délégué aux concertations nationales. Je suis membre de la thématique numéro 1 sur la gouvernance, la démocratie et les réformes institutionnelles.
Mm-hmm.
Bon, et donc, je sais tout ce qui s'est passé là-bas. Partout, on a insisté pour ces élections et donc il faut qu'on les organise. Mais c'est la CENI qui doit donner le calendrier.
Mm-hmm.
Mais il ne suffit pas de donner le calendrier, il faut que le gouvernement donne les moyens à la CENI pour faire ce travail-là. Donc, c'est très important. Il faut le faire et le faire très rapidement parce qu'on a perdu beaucoup de temps.
Mais parce qu'on a évoqué la concertation nationale, ils ont souhaité presque tous que la population soit informée de ce qui s'est passé. Est-ce qu'au niveau de l'Assemblée nationale du Sénat, c'est prévu que ces matières soient traitées, qu'elles soient mises à la disposition de la population, le résultat des concertations?
Non, ce n'est pas au Parlement de le faire.
Mm-hmm.
Bon, selon l'ordonnance du président de la République qui a convoqué ces concertations, il est dit que les recommandations des concertations seront envoyées au président de la République,
okay,
comme destinataire,
mm-hmm,
mais aussi à l'Assemblée nationale du Sénat et au Sénat. Cela veut dire qu'il y a des recommandations. Là, nous revenons au calendrier,
c'est
la question que vous avez posée tout à l'heure. Il y a des recommandations qui seront transformées en loi. Et c'est très important. Il y a des recommandations qui seront transformées en décisions politiques. Parce que c'est fait pour ça.
Mm-hmm.
Et donc, s'il y a telle ou telle recommandation qui est importante, qui demande qu'on vote une loi, ça sera une loi prioritaire, parce qu'il faut le faire, parce que les conservations l'ont suggéré.
Bien.
Encore une fois, les recommandations ne sont pas des décisions, mais elles présentent quand même un certain poids moral et un certain poids politique. On peut le faire, mais ça, c'est une autre question. Donc, ça se fera. Les recommandations seront faites. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui va se faire? Il faut les vulgariser. Il faut les diffuser. Les recommandations ne sont pas faites pour rester dans les tiroirs des militaires. Quand le président de la République va aller clôturer ces concertations,
mm-hmm,
on va mettre sur la place publique les recommandations parce que c'est un travail du peuple. C'est fait pour le peuple. Il faut que les gens sachent qu'est-ce qui s'est passé. Mais ça, il faut attendre que le président fasse son discours.
Mais il y a vraiment beaucoup de matières que les autres amis ont évoquées.
Mm-hmm.
Mais il y a c'est pour la seulement sur les débats sur les immunités au niveau du Parlement. Notre ami Franklin souhaitait que ce soit débattu en émo.
Oui. Je vais revenir sur cette question des immunités. Je vais dire à Franklin qui a posé ce problème pour savoir devant les immunités parlementaires, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect irresponsabilité pénale et l'aspect inviolabilité,
mm-hmm,
de la personne et des biens. Sur le plan de l'inviolabilité, de l'irresponsabilité pénale, qu'est-ce qui se passe? Un député, et c'est très important, il faut faire beaucoup de pédagogie sur cette question, un député qui fait des déclarations, qui exprime ses opinions,
en exercice pendant qu'il exerce son mandat parlementaire, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas le poursuivre pour ça. Ça, c'est l'irresponsabilité pénale. Deux, mais il y a l'inviolabilité physique. C'est-à-dire que pendant toute la durée de son mandat, pendant 5 ans, partout où il est protégé. On ne peut pas porter la main sur lui. On ne peut pas l'arrêter, par exemple. C'est l'aspect inviolabilité, protection. Mais attention, lorsqu'il commet une infraction, qu'est-ce qui va se passer? S'il faut le poursuivre, il faut demander l'autorisation du Sénat ou de l'Assemblée nationale, qui doit examiner est-ce que c'est farfelu, est-ce que c'est une infraction sérieuse, etc. Et lève alors l'immunité du parlementaire pour qu'il soit poursuivi. Mais, donc si on est en vacances parlement, maintenant c'est la session, ils sont en session pour le moment, là c'est l'Assemblée nationale ou le Sénat qui va se prononcer pour dire si oui ou non il faut lever l'immunité pour qu'ils soient poursuivis. Si ils sont pendant les vacances parlementaires, en dehors des sessions, là c'est le bureau du Sénat ou le bureau de l'Assemblée nationale qui peut lever. Mais attention, en cas, c'est très important, en cas d'infraction flagrante, il n'y a pas d'immunité à évoquer, il n'y a pas d'autorisation à solliciter. Là, on arrête le parlementaire qui commet une infraction flagrante, on l'arrête immédiatement et on le présente devant le juge qui peut le juger et le condamner. Donc, il faut bien corriger les choses. Il faut vraiment que les parlementaires de notre pays soient vigilants, qu'ils soient responsables. Il ne faut pas penser que parce que vous êtes parlementaire et donc vous êtes au-dessus des lois, vous êtes un intouchable. Si vous commettez une infraction, on peut vous poursuivre en justice et le Parlement peut lever votre immunité. Donc, il ne faut pas faire de confusion. Vous êtes protégé tant que vous ne commettez pas l'infraction. Si vous commettez l'infraction, on peut enlever la protection. Donc, enlever l'immunité par votre chambre, le Sénat ou l'Assemblée nationale. Et si c'est une infraction flagrante, là, on vous arrête immédiatement par le policier ou le parquet, on vous juge, on le fait. Donc ça, c'est très important. Il faut faire beaucoup de pédagogie pour éviter des erreurs, de penser que oui, dans notre pays, on ne respecte pas les immunités, on fait n'importe quoi. Attention, l'immunité vous appelle à faire pour preuve de beaucoup de responsabilités et de vigilance dans votre comportement quotidien en tant que parlementaire.
Voilà, il y a beaucoup de questions sur la sécurité, on va revenir. Les temps qu'on ne puisse pas perdre, c'est qu'ils sont déjà sur les antennes, des fois qu'on a des petits soucis des lignes téléphoniques, comme Gauthier qui est à Kananga, Maître Pilipili qui est à Kimpest et Théodore en Bujima, 081-890-6315.
Parole aux auditeurs.
Gauthier, vous avez suivi des matières proposées par des compatriotes qui se croisent quelque part en fonction de besoin. Vous êtes à Kananga, au-delà de ce qui a été dit par les autres pour vous, les deux chambres peuvent se pencher sur quoi pendant cette période?
Oui, M. Thérault, je commence par vous saluer et je salue tous les auditeurs de la Radio Papi.
Merci beaucoup, oui.
Comme mes devanciers se sont appelés sur un certain nombre de faits, personnellement, je peux aussi cadrer mon analyse sur un point. Parce que je ne voulais pas qu'ils reviennent encore, ils ont mis toutes les belles choses, mais je pouvais dire. Moi, je vise l'insécurité de l'Est. Il y a guerre à l'Est. Si le gouvernement, à son niveau, n'arrive pas à peser pour mettre fin à la guerre, mais le Parlement, qui a une attribution de contrôler le gouvernement, doit peser à travers, par exemple, les contrôles. Il peut inciter le gouvernement à pouvoir décréter un état d'urgence, soit rompre les relations, relations diplomatiques avec le Rwanda. Sachant bien que c'est le Rwanda qui nous menace, le Rwanda qui nous fait la guerre. Mais pourquoi cette question ne peut pas interpeller nos députés ou pas aux parlementaires? Moi, je pense avec ces dossiers, d'ailleurs, nous venons de l'apprendre, le réfugié rwandais qui était à la Tanzanie vient d'être chassé. Et ils occupent librement les territoires congolais. Parce que nous savons pas les rangées qui pointent déjà à l'horizon. Donc, pour moi, j'interpelle la conscience des parlementaires. Parce que le Rwanda est un agent connu qu'on peut utiliser la guerre, nous devons rompre les relations diplomatiques. Et le Parlement pèse et incite le gouvernement à y parvenir.
Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Gauthier. Vous pensez que, avec la situation de l'insécurité à l'Est, il serait mieux que le Parlement puisse hausser le ton, puisse avoir vraiment des initiatives qui poussent le gouvernement à beaucoup plus agir jusqu'à, vous avez même proposé jusqu'à rompre des relations diplomatiques, mais vous souhaitez que le Parlement puisse se pencher sur cette question de l'insécurité à l'Est. Maître Pilipili, vous êtes à Kinshasa, dans le Bas-Congo. Bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot et la Mégie. Je vais rectifier. Je suis à Kinshasa, c'est à 42 km de la cité minière de Likasi. Ce n'est pas dans le Bas-Congo.
Ah, c'est pas à Kinshasa, c'est du Bas-Congo. Cette fois-ci, c'est dans le Katanga. Ok, ça c'est bon. Merci beaucoup.
Dans le Katanga, à 7 km de la cité minière de Chinkolobul.
Ok, merci beaucoup pour cette précision, maître Pilipili. On vous écoute pour vous. En bref, quelles sont les priorités qui doivent être traitées au sein de l'Assemblée nationale, tout comme du Sénat?
Donc, dans les priorités, moi d'abord, je voyais que les priorités pour moi, c'est l'organisation des élections rapides, des élections provinciales. Puisque je vois que au chef du gouvernement, ils n'ont pas en tout cas cette occasion d'organiser ces élections, puisque, comme vous le savez, tous les gouverneurs de province étaient dans la majorité. Alors qu'il y avait des gouverneurs de l'opposition qui sont remédiés pour des raisons inadéquationnelles. Alors, le gouvernement ne veut plus organiser les élections provinciales pour dire que non, ils n'ont plus de choix, ils dirigent tout au niveau de toutes les provinces.
Voilà, merci beaucoup, maître Pilipili. Vous pensez que l'organisation des élections est une question importante. Et je vois d'ailleurs dans les calendriers, on l'a vu ensemble avec l'invité, qu'il y a aussi la proposition de loi modifiée en complétant la loi organisant les élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines et municipales et locales est aussi à l'ordre du jour. C'est cela qui peut conduire à la tenue de ces élections. Merci beaucoup. On termine avec Théodore, plutôt, qui est en Bujumbura au Kasai Oriental. Bonjour, Théodore. Théodore, vous êtes avec nous. Bonjour. Désolé, on a perdu Théodore. Professeur Chibankalala, vous avez suivi nos auditeurs. La question de l'insécurité est revenue plusieurs fois. Les amis pensent qu'il faut vraiment qu'au niveau du Parlement, qu'on s'occupe vraiment de cette question, qu'on contrôle, qu'on pose des questions pour savoir qu'est-ce qu'on fait pour résoudre le problème de l'insécurité à l'Est, mais aussi voir la situation sociale, que ce soit le médecin, les enseignants, comment on peut examiner cela au niveau de l'Assemblée par rapport même à la loi des finances qui est en examen. Voilà, ce qui est les auditeurs ou encore ajouter sur les priorités.
Oui, c'est vrai, vous voyez, la question des élections revient encore, et vous avez bien fait de rappeler qu'il y a déjà un projet de loi portant révision de la loi électorale qui a été déjà déposé par le gouvernement déjà depuis plusieurs mois, parce qu'on ne va pas organiser les élections futures sans revoir cette loi pour éviter de pouvoir retomber dans les erreurs de ce qu'on a connu en 2011. Il faut vraiment une bonne loi qui assure la transparence, l'honnêteté et des élections pour éviter des fraudes, etc. Donc on va y travailler. Mais encore une fois, ça c'est prioritaire. On a insisté là-dessus. J'espère que au cours de cette session ordinaire, le Parlement va essayer de revoir cette loi qui est prioritaire pour pouvoir organiser les élections provinciales, j'espère, dans les prochains mois, peut-être en 2014, on verra. Deuxième chose, la question de la guerre à l'Est. Rachel en a parlé, Jean de Kinshasa en a parlé, puis on revient là-dessus. Eh bien, c'est un petit peu notre serpent actuellement dans le pays. Mais il faut dire que dans le cadre des concertations nationales, il y a eu tout un atelier qui a ce problème de paix, de conflits intercommunautaires, etc. Comment pouvoir arriver à stabiliser notre pays et éviter les guerres. Et n'oubliez pas que le président de la République, dans son ordonnance, convoquant les concertations nationales, la justification principale, c'est comment éviter les guerres à l'Est. Il faut renforcer la cohésion nationale. On en a parlé abondamment dans les concertations nationales. Bientôt, il y aura des recommandations dans ce domaine-là. Et j'espère qu'après ces recommandations, eh bien, le Parlement va récupérer ces recommandations, c'est pour ouvrir un débat, soit à l'Assemblée nationale, soit au Sénat, pour voir comment nous pouvons arriver à régler ce problème des violences, des guerres cycliques à l'Est qui perturbent le développement du pays. Ça fait très mal, je crois qu'on voit parfois des images de misère, de guerre, de troubles. Ce n'est pas bon. Le président en a parlé même à l'Assemblée nationale, récemment dans son discours.
où il a évoqué les images que nous avons tous vues de voir des femmes et des enfants aplatis, ventre à terre, à Goma, parce qu'on s'attirait de tous côtés. Mm-hmm. Des images vraiment poignantes. Les gens même rappelé cela à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée générale de New York. Donc, c'est une question d'importance nationale. Il faut prendre cette question à bras le corps. Et aux concertations nationales, on a pris la question à bras le corps. N'oubliez pas qu'il y a déjà un accord qui a été signé à Addis Abeba sur la question. N'oublions pas qu'il y a déjà une brigade internationale qui a une puissance de feu considérable pour aider à éradiquer des groupes armés qui créent des oasis du pays. Et donc, le travail se fait, même pour notre armée. N'oubliez pas que le président de la République a dit que bon, la priorité des priorités aujourd'hui, c'est le renforcement de notre armée, la réformer, la rendre opérationnelle, dynamique, etc. Et donc, le travail se fait, ça va pour produire des résultats dans les mois qui viennent, pour que vraiment qu'il y ait la paix sur l'ensemble du terrain de notre pays, comme on en a dans le Kasaï, dans le Bas-Congo, dans le Bandundu, à l'Équateur. Il faut vraiment que toute la bande orientale de notre pays, où il y a des désordres, où il y a des souffrances, que vraiment qu'il y ait la paix. Donc c'est une priorité pour le pays. Je suis sûr que le Parlement, après les concertations nationales, pourra ouvrir un débat sur le sujet et faire en sorte que toutes les décisions qui sont prises, qui sont en cours, produisent des résultats. Donc je vois ce que va. Nous attendons aussi Kampala. Peut-être à Kampala, on aura aussi des bonnes nouvelles. Mais le travail se fait, il faut garder espoir et bon espoir. Je pense que cette question est sur le point d'être résolue. Ça prendra quelques mois, quelques semaines. En tout cas, nous sommes dans la bonne voie pour que la paix revienne de manière définitive dans la partie orientale de notre pays.
Voilà, nous avons trois auditeurs en ligne. Hein. On va écouter un auditeur avant le flash d'information parce qu'on pourra revenir pour la deuxième partie, lire aussi des messages qui nous ont été déposés sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs et conclure cette émission. Et Ismaël, vous êtes à Lubumbashi au Katanga. Bonjour.
Bonjour Pierre, la Méji, bonjour à professeur Chibankala, les professeurs.
On vous écoute, on tend vers les flashs d'information. En 45 secondes, quelle est votre priorité pour cette session parlementaire?
Allez, résumant, la première des choses, moi, Issa Goumachi, nous demeurons affamés. L'année dernière, les sacs de farine à 25 kilos étaient arrivés jusqu'à 35 000. Et on devait aussi songer à équilibrer aussi les budgets sur le plan de l'agriculture. Sinon, on risque aussi de mourir affamés. Mais pourquoi est-il important qu'il y ait aussi un équilibre budgétaire? C'est parce que les différents services se plaignent. Quand d'autres touchent plus que les autres, cela engage aussi une guerre civile. Et l'insécurité de la RDC était majeure vraiment. Si on n'en songe pas, soit si on n'en parle pas suffisamment, c'est un problème difficile.
Merci beaucoup.
Alors,
merci.
Concernant la priorité au discours de tous ceux qui devaient être élus, ils ont parlé de l'eau et de l'électricité. Où est-ce que nous en sommes? Sinon, si on ne fait pas l'état des choses, on risque aussi.
Merci beaucoup, Ismaël. Voilà, merci beaucoup, Ismaël, parce qu'on va écouter les flashs d'information. Vous avez insisté sur la sécurité, le problème d'un budget équilibré avec l'agriculture, l'eau et l'électricité. Voilà les priorités qui doivent être examinées pendant cette période. On va se retrouver juste après le flash d'information des Radio Capu pour la deuxième partie des paroles aux auditeurs.
Paroles aux auditeurs, Pierrot et Amélie.
Nous allons écouter les deux derniers auditeurs de cette émission, consacrée bien sûr à la session ordinaire au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat pour le mois de septembre, et une session essentiellement budgétaire. Mais parole aux auditeurs vous permet aussi de dégager ensemble les priorités qui peuvent être examinées. Nous avons Joseph qui est à Bukavu et Maître Gaston Issa Kinshasa, mais ils ont aussi les messages qui ont été déposés sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Castro Malonga dit que si les questions sécuritaires à l'est du pays seraient prioritaires pour nos députés, ils doivent songer aussi au social de la population. Nestor Kombo à Kinshasa pense que prioritairement, il faudrait que les députés puissent s'occuper de la question de l'insécurité à l'est, qu'ils puissent poser des questions au gouvernement, mais aussi ceux de Kinshasa doivent hausser le ton par rapport au banditisme qui a élu domicile et qui crée l'insécurité dans la capitale. Innocent Armand Kondoli, comme autre matière à traiter, il pense qu'il faut prioriser. Il faut prioritairement ce qui de l'insécurité, mais aussi la question de l'amnistie pour éviter tous les débats au sein de la classe politique autour de cette amnistie. Arafat Chamuta dit ceci, la situation du budget, il faudrait qu'on puisse discuter au niveau du budget, voir s'il peut résoudre le problème de l'armée, comment renforcer la défense, mais sans oublier aussi la situation des accords, que le Parlement pose des questions sur les discussions qui se font à Kampala pour savoir où en sommes-nous, et la question des groupes armés. Moïse, qui nous écrit de Tanzanie, dit ceci: je pense que les matières prioritaires pour cette session parlementaire, c'est aussi les contrôles parlementaires en ce qui concerne la gestion dans les différents ministères et les régies financières, pour qu'on puisse savoir comment résoudre le problème de la population. Pascal Mufunguzi pense que les élus devraient en principe se pencher plus sur la question de la paix et voir comment équilibrer les budgets par rapport à la défense et aux besoins des militaires et policiers qui assurent la sécurité. Jean-Claude Kabongo Kabulu, qui nous écrit de Mbujimaï, dit ceci: pour moi, la priorité, ça doit être le problème social, par exemple avec la situation de transport en commun, les compagnies aériennes. Le Congo n'a pas une compagnie aérienne, pourquoi pas les députés poser la question au gouvernement sur un projet de création d'une compagnie de transport, une compagnie aérienne. Voilà, autant des questions proposées par les compatriotes. Aussi, c'est Lé Toubadi qui nous écrit de Kamanga, qui pense que en tant que porte-parole de la population, les députés devraient poser la question sur le budget qui est alloué à l'enseignement, comment il faut l'améliorer, mais pourquoi pas les problèmes de l'eau et de l'électricité. Il a raison, Ismaël de Lubumbashi. Olive Lamour dit ceci: il faut d'abord que les députés soient sûrs qu'au niveau sur terrain, il y a l'application de la tolérance zéro en ce qui concerne la corruption, que les députés se penchent sur le cas, l'étude de la corruption dans notre pays. Mapenzi Joël revient sur les questions de sécurité. Jordan Chamala, qui nous écrit des Kananga, revient sur les problèmes de la sécurité à l'Est, où beaucoup de personnes sont en train de souffrir, et qu'il demande aussi de savoir qu'est-ce qui se passe à Kampala entre le délégué du gouvernement et ceux du M23. C'est le même souci des trésors Toubajiki, qui voudrait que les députés posent la question sur la négociation de Kampala. Scott Bakumbane, elle revient sur les problèmes de l'insécurité dans la ville de Kinshasa avec le phénomène Kouloula, qui peut aussi être inscrit parmi les matières à traiter à l'Assemblée nationale, mais pourquoi pas aussi les problèmes de la guerre de l'Est. Cette question de la guerre de l'Est est revenue presque sur tous les messages. Il y a aussi Gide qui nous écrit de Lubumbashi, qui pense qu'il faudrait, au-delà de la santé et de l'éducation, que les députés posent la question sur la réalité de ce qui se passe à l'Est. Voilà, c'est une question très importante. Et enfin, Rossi qui nous écrit de Kikwit pense que la situation sécuritaire de notre pays semble être la priorité des priorités, et pour moi. Voilà, voilà. Autant d'auditeurs sont revenus, professeur Kibamo, sur le problème de la sécurité à l'Est. Placez un mot avant d'écouter les deux derniers auditeurs.
Oui, c'est vrai. Il y a le problème, et j'ai déjà dit un mot là-dessus, pour le problème de la sécurité à l'Est. Vous avez suivi le président de la République à New York. Il est revenu là-dessus. Il a demandé aux pays voisins de respecter leurs engagements souscrits dans le cadre d'un accord d'Addis Abeba. Donc, et quel engagement? De ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de la RDC, de ne pas financer, soutenir et équiper les mouvements rebelles qui viennent créer l'insécurité dans notre pays. Il est allé plus loin, même jusqu'à dire, à demander des sanctions pour des pays qui ne se comportent pas dans le respect du droit international. Donc, le travail se fait. Moi, je suis vraiment optimiste. La situation a changé. Notre pays, grâce à l'action diplomatique du président de la République et du gouvernement, nous sommes dans une bonne situation aujourd'hui. Nous avons le soutien de toute la communauté internationale qui a envoyé même une armée internationale spécialement ici pour nous aider à régler ce problème. C'est une question de temps. Je pense que la question de la sécurité. Maintenant, je reviens sur la question qu'on a posée le problème de Kampala, de contrôle parlementaire. C'est tout à fait correct que notre population s'est posée cette question. Et donc, je comprends bien, j'imagine qu'un parlementaire peut demain, après demain, poser une question d'actualité au gouvernement pour que le ministre des Affaires étrangères aille au Parlement pour expliquer ce qui se passe à Kampala. C'est tout à fait normal. Ou le problème de l'insécurité dans la ville de Kinshasa, de Kouloula, etc., le ministre de l'Intérieur peut aller, ça prend 30-40 minutes pour expliquer à la représentation nationale qu'est-ce qui se passe et quelles sont les mesures qui sont prises par le gouvernement pour combattre ce phénomène dont se plaint la population de Kinshasa, même dans certaines provinces. L'autre jour, j'ai appris qu'en Bougeman, ils ont les mêmes problèmes.
Oui.
Et donc, ça, le gouvernement doit être justement en contact avec les parlementaires, avec la population, pour expliquer ce qui se passe, les mesures qui sont prises pour combattre ce problème. Et donc, vous voyez que c'est une préoccupation. Ça, c'est dans le cadre du contrôle parlementaire.
Mm-hmm.
Encore une fois, ce n'est pas parce que nous sommes en session budgétaire et les autres doivent tourner les pouces, mais voilà, le cas de contrôle parlementaire et d'autres. Notamment, Kampala, il faut qu'on explique, parce que les gens demandent, mm-hmm. ils veulent connaître. Donc, c'est une bonne chose. Maintenant, le cas du courant ou l'électricité, j'ai suivi ce matin comme vous, qu'on va bientôt signer un accord entre notre gouvernement et l'Afrique du Sud pour relancer Inga. On va arriver avec un montant de 13 milliards de dollars, c'est bien,
oui.
pour relancer Inga, pour qu'on ait suffisamment de puissance électrique dans notre pays. Et à terme, nous pouvons même alimenter la moitié de l'Afrique, parce qu'on a une grande puissance à Inga. Et donc, le gouvernement travaille pour augmenter notre puissance électricité, mais aussi, il faut qu'il y ait une société, justement, pour la distribution,
voilà.
tu sais, sur l'ensemble du pays. Mmh. Et donc, le gouvernement travaille de ce côté-là, ça va prendre du temps, mais à mon avis, selon les informations que j'ai, le gouvernement est en bonne voie et travaille pour qu'on règle ce problème-là, qui est un problème récurrent.
Voilà, on va écouter les deux derniers auditeurs de cette émission, revenir à vous pour la conclusion. Joseph, vous êtes à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. Bonjour.
Oui, bonjour, merci, M. Thibault. Je pense que l'invité, nous les remercions. Il est tellement outillé dans sa matière et tout ce qu'il vient d'illustrer au sein du gouvernement. Vraiment, grand merci, puisqu'on ne savait pas tout ce qui se passe là. Mais je pense que les priorités sont tellement nombreuses. Mais ce que j'ai déjà dit, et en amont, je veux dire que le gouvernement va vite en besogne, à quel point qu'il ne sera pas en mesure de faire tout ce qu'il vient, tout ce qu'on vient d'illustrer. Pourquoi? Je pense que les premières priorités, on devrait faire l'amnistie pour les autorités qui sont incarcérées dans des différentes prisons, à tel point qu'ils ne sont pas bien vêtus, donc ils vivent dans des conditions précaires. Je pense que c'est ce qu'on devrait faire, puisque dans la démocratie, on doit avoir l'amnistie pour les victimes. Alors, si le gouvernement ne fait pas ça, on aura toujours des problèmes. Alors aussi, je me penche sur ma province. Il y a tant de choses à faire. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de vice-gouverneur. C'est le problème aussi des routes. Je pense que tous les jours, je parle ça à la radio, papy. Nous n'avons pas de routes. Nous vivons toujours de l'importation. À tel point que Chabunda, pour y arriver, il faut un avion. Alors, si le gouvernement devrait faire le moyen possible de pouvoir construire des routes, je pense que l'agriculture devrait aller en avance. Puisque ici, nous vivons, c'est grâce aux pays voisins ici, avec les nourritures officielles. Or, on a tous les moyens propices de pouvoir faire ça. Alors, les priorités pour moi ici à l'Est, c'est le fait de construire les routes, mais aussi l'ensemble provincial qui est là. Je pense que son mandat est à la fin. On parle des bonus. Est-ce qu'il y a des bonus dans la démocratie? Je pense qu'il y a des choses à faire dans ce pays, mais on peut faire d'abord l'amnistie pour les autorités. Puisqu'ils sont incarcérés, les choses ne peuvent pas marcher si ce sont eux qui vont. De tous les mal et de tout ce qui s'est passé au pays.
Merci, merci beaucoup, Joseph. D'ailleurs, ça a été déjà évoqué. Hein, on a vu dans le calendrier que le projet de loi sur l'amnistie est déjà prévu au niveau du calendrier, parce que cela, c'est une recommandation. Aussi, ça a été dit par le chef de l'État lors de l'ouverture des concertations nationales. On a vu cela aussi inscrit dans l'ordre du jour, dans le calendrier au niveau de l'Assemblée nationale, tout comme aussi au niveau du Sénat. On l'a déjà évoqué avec notre invité, mais vous pensez que les députés pouvaient aussi voir comment s'est penché sur la situation des infrastructures routières. Hein. Vous avez beaucoup de difficultés, surtout en province, savoir peut-être avec les ministres des ITPR, où en sommes-nous avec le projet route de telle ville à telle ville, quelle est la situation, et avoir des explications pour permettre à la population de comprendre ce qui se passe en ce qui concerne les infrastructures routières. Merci beaucoup, Joseph. Et enfin, Maître Gaston, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, merci.
Vous avez l'occasion de parler au nom de tous les auditeurs pour conclure. On a toujours dit ça dans Parole aux auditeurs. Et vous avez suivi les uns et les autres. Pour vous, en une minute, quelles sont les questions prioritaires qui peuvent être inscrites à l'ordre du jour de cette session parlementaire?
D'accord. Je vais en quelque sorte répéter les ordres, mais en d'autres termes. Je pense que j'ai comme l'impression que les budgets chez nous, on sait que déposé, adopté, mais il n'y a pas les contrôles en cours, voire à la fin. Et puis, le Parlement doit autoriser l'état de guerre. Et le président proclame l'état de siège afin de gouverner conformément aux règles d'un état d'urgence et la situation que nous passons. Il faut qu'on adopte une loi permettant d'appliquer les statuts de Rome sur notre territoire. Mais il faut traiter avec sérieux aussi, j'évoque comme des préalables avant d'adopter une loi d'amnistie. Il faut qu'on puisse d'abord identifier qui ont commis les crimes graves ayant une portée, disons, internationale. Parce que les pays qui sont dans les prisons ne sont pas tous les mondes. Ceux qui sont libérés en liberté doivent être identifiés comme des criminels avant d'adopter cette loi-là. La grâce ne doit pas viser à accorder des preuves d'impunité à ces
criminels. Merci beaucoup, Gaston. Je me rends compte tout de suite qu'on est bousculé par le temps. Nous allons accorder au professeur qui a déjà vraiment beaucoup expliqué en un mot pour conclure cette émission, professeur. On a suivi les uns et les autres parce que là, il n'y a qu'une minute qui nous sépare de la fin vraiment de l'émission. Au-delà de tout ce qui a été dit, qu'est-ce qu'on peut retenir en un mot?
Oui, bon, très rapidement, il y a Joseph de Bukavu qui a pour le compte de la compagnie aérienne et puis même notre ami Samir Badou l'agriculture, ce sont deux points très importants. Il faut vraiment, et la Mégie, nous avons un problème, je ne crois pas c'était le Kenya ou l'Éthiopie ont de plus que nous, Congolais, pour avoir de belles compagnies aériennes, Kenya Airways, Ethiopian, et nous n'avons rien. Mais j'ai appris que le gouvernement travaille sur un projet pour qu'on ait une belle compagnie aérienne. Je souhaite bonne chance au gouvernement sur ce point-là. Deuxième chose pour l'agriculture, le gouvernement a relancé ce qu'on appelle les campagnes agricoles. On avait oublié ça, parce que agriculture, priorité et priorité, ça ne veut rien dire si on ne finance pas l'agriculture. Et le gouvernement a débloqué beaucoup d'argent pour lancer des campagnes agricoles. Oui. On est là aussi dans la bonne voie et à terme, on aura vraiment une grande réussite dans ce domaine qui procure beaucoup et beaucoup. J'irais même plusieurs millions d'emplois dans notre pays dans
notre culture.
En résumé, je pense que tout va aller, mais question de faire patience et nous attendons les concertations nationales qui ont pris des résolutions importantes dans le cadre du redressement du pays.
Merci. Nous vous disons merci, professeur Chibankalala, d'avoir accepté notre invitation. Merci aux auditeurs qui ont commenté à ces sujets sur la session parlementaire. On se retrouve demain à 11h30 pour un autre numéro des paroles aux auditeurs. Merci à Paul Badenama, Nadine Poula et Nicole Ndaka qui nous ont aidé à produire cette émission que vous allez suivre à 20h30 en rediffusion à RD Kinshasa, bien sûr, mais qui est permanente sur www.radiocapi.net. Merci. Au revoir à tous. Thank you.